Société d'intérim Adecco, condamnée pour discrimination à l'embauche et fichage à caractère racial. Une décision de justice que les plaignants attendaient depuis plus de 20 ans, nous expliquera Anne Fauquemberg. Un rapport remis à l'Élysée plaide pour tripler les investissements dans l'intelligence artificielle. Mais quel serait l'impact du déploiement de l'IA sur l'emploi? Analyse de Marie Viennot. TikTok menacé d'interdiction aux États-Unis si le réseau social ne coupe pas les liens avec la Chine. La Chambre des représentants vient de voter un texte que nous présentera Loïc Loury. Personne n'a peur de Vladimir Poutine. Ici, déclaration du président lituanien au lendemain de l'agression de l'opposant russe en exil, Leonid Volkov. Nous irons à Vilnius. Les faits remontent à plus de 20 ans, mais c'est cet après-midi seulement que le géant mondial de l'intérim Adecco a été condamné à 50 000 euros d'amende par le tribunal judiciaire de Paris pour discrimination à l'embauche et fichage à caractère racial. Deux anciens directeurs de l'agence d'intérim Montparnasse ont quant à eux été condamnés à 10 000 euros d'amende, dont 7 000 avec sursis. Le groupe Adecco et ses deux cadres étaient poursuivis par d'anciens salariés et des associations antiracistes pour avoir mis en place un système de discrimination fondé sur la couleur de peau, à travers un fichier comportant les noms d'intérimaires très majoritairement noirs. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir Aurélie.
Cette condamnation soulage les parties civiles, même si cette affaire est emblématique des délais déraisonnables de la justice.
Sur les 500 intérimaires présents dans le fichier PR4 de l'agence d'intérim parisienne, seule une vingtaine se sont portées partie civile. Assa Koulibaly s'est accrochée à cette procédure et n'a pas lâché en dépit des rebondissements. Au moins 6 juges d'instruction se sont succédés, s'orientant souvent vers un non-lieu. Mais il y a maintenant ce jugement bien motivé en droit et en fait.
C'est ça qui est satisfaisant, parce qu'en fait, on a été reconnu, on a gagné, et c'est ça qui fait plaisir. On n'a pas fait tout ça pour rien. C'est pas normal ce qui se passe dans la société. Faut vraiment qu'on se batte et qu'on se bouge, et voilà.
Abby a 20 ans. Elle ne souhaite pas donner son nom, mais elle est venue pour son père, aujourd'hui décédé. Il a vécu des années avec cette sensation d'avoir été discriminé.
Je sais que mon père, s'il avait été là, lui, se serait constitué partie civile. Il aurait aimé que la vérité éclate et que la société puisse être déclarée coupable et avoir la certitude que c'était pas seulement un film monté dans sa tête, c'était réel.
Les personnes discriminées ont obtenu 1200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Une somme bien trop faible pour Samuel Thomas, il est le président de la Maison des Potes, également partie civile.
Vous avez 20 victimes aujourd'hui, ça représente 25 000 euros pour Adecco, c'est pas du tout dissuasif. Il faut envisager d'aller au prud'homme pour les 500 autres victimes, pour qu'elles obtiennent une réparation qui soit plus importante et qu'elles fassent valoir leurs droits devant une juridiction qui est plus à l'écoute de la souffrance des victimes, victimes de harcèlement raciste ou de discrimination raciale.
Selon Samuel Thomas, seuls les prud'hommes pourront exiger d'avoir accès aux scellés de cette affaire, notamment les supports numériques qui contiennent les numéros de sécurité sociale des victimes du fichier PR4. L'accès à ces données devrait permettre de retrouver l'adresse des 480 personnes qui ne sont toujours pas au courant d'avoir été discriminées.
Adecco prend acte de cette décision de la justice et se réserve le droit de faire appel. L'entreprise rappelle qu'elle mène depuis plusieurs années, je cite, une politique résolue de lutte contre les discriminations et qu'elle met tout en œuvre pour que cette situation ne se reproduise plus. France Travail, Enseignement, Pôle Emploi a été la cible d'une cyberattaque. L'opérateur public précise que les données personnelles de 43 millions de personnes auraient potentiellement été exfiltrées, celles de demandeurs d'emploi inscrits au cours des 20 dernières années et de personnes ayant un espace candidat sur francetravail.fr. Lancé il y a 6 mois pour donner un coup d'accélérateur au développement de l'intelligence artificielle en France, le comité interministériel de l'IA générative a remis son rapport au chef de l'État. Il formule 25 recommandations pour favoriser le déploiement du plein potentiel de l'intelligence artificielle en France. Ce rapport plaide pour des investissements importants. En ce qui concerne l'impact sur l'emploi, Marie Viennot, le comité affirme que seulement 5% des emplois d'un pays comme la France sont directement remplaçables par l'IA.
Pour évaluer les effets sur l'emploi, le Comité sur l'intelligence artificielle a compilé diverses études. L'intelligence artificielle a un double effet sur le travail humain, un effet d'éviction, des tâches sont automatisées, et un effet de productivité, les individus peuvent travailler plus vite grâce à elle. Selon l'INSEE, dans les entreprises françaises qui ont déjà adopté l'IA, l'emploi total a plus augmenté que dans les autres. Cela peut s'expliquer ainsi, puisque la productivité y a augmenté, ces entreprises ont gagné des parts de marché et ont recruté. Néanmoins, l'effet sur l'emploi global reste incertain. Au niveau mondial, l'Organisation internationale du travail estime que 13% des emplois dans le monde pourraient être aidés par l'IA et seulement 5% remplacés par elle. Des chiffres à prendre avec des pincettes, car une étude similaire du Fonds monétaire international conclut, elle, qu'un tiers des emplois pourraient être remplacés et un tiers améliorés. Diverses études se rejoignent néanmoins sur le fait que les femmes sont surreprésentées dans les métiers menacés par l'intelligence artificielle. Le rapport dresse d'ailleurs une cartographie des métiers les plus à risque, comptables, télévendeurs, secrétaires, et dans une moindre mesure, car toutes leurs tâches ne sont pas automatisables, journalistes, juristes, architectes, graphistes, interprètes, artistes. Au final, les auteurs estiment que l'IA devrait créer plus d'emplois qu'en détruire, mais ils disent aussi que d'autres études plus précises sont nécessaires pour répondre au cas par cas à cette question.
À noter que les députés européens viennent d'adopter des règles pour encadrer les systèmes d'intelligence artificielle comme ChatGPT et lutter contre la diffusion de fausses photos ou vidéos susceptibles de permettre de manipuler l'opinion. Cette législation européenne est unique au monde. Les crises se succèdent à Sciences Po Paris. Le directeur de l'établissement, Mathias Vichra, renvoyé devant la justice dans un dossier de violence conjugale, annonce ce matin sa démission. Par ailleurs, une mobilisation pro-palestinienne dans l'école hier a donné lieu à des débordements dont Emmanuel Macron lui-même s'est ému aujourd'hui en Conseil des ministres. Merci Anne-Évic.
Oui Aurélie. Il faut d'abord savoir que des étudiants ont occupé un amphithéâtre de Sciences Po hier. C'était dans le cadre d'une journée de mobilisation pour la Palestine. Une étudiante de l'Union des étudiants juifs de France a été empêchée d'accéder à l'amphithéâtre. Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste. Ces propos-là auraient été tenus et Emmanuel Macron a dénoncé ce matin effectivement des propos inqualifiables et parfaitement intolérables. Mais l'incident suscite des divisions au sein de l'école. Selon le syndicat Union étudiante Sciences Po, l'étudiante aurait été refoulée pour des raisons de sécurité. Tristan Konigsberg fait partie de cette organisation étudiante.
Des étudiants de l'Union des étudiants juifs de France ont voulu rentrer dans l'occupation. Certains d'entre eux sont rentrés. Et l'une d'entre elles, qui en fait avait été plusieurs fois lors de mobilisation, reconnue parce que les dernières fois, elle avait pris des photos des étudiants mobilisés, ce qui menace évidemment la sécurité des étudiants mobilisés. Parce que justement, voilà, il y avait plusieurs altercations déjà avec cette personne précisément, a été interdite de rentrer dans l'amphithéâtre.
L'Union des étudiants juifs de France rejette catégoriquement cette version des faits. Les militants de l'organisation se sentent stigmatisés au sein de l'école depuis le 7 octobre et le retour de la guerre au Proche-Orient. Certains élèves juifs vont à l'école la boule au ventre, comme nous l'explique cette étudiante qui préfère rester anonyme.
En tant que juifs, on se sent pour beaucoup en insécurité au sein de l'école à cause d'actes et de paroles antisémites. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants juifs qui vont la boule au ventre à l'école, qui doivent prendre des anxiolytiques pour aller en cours et qui réfléchissent à est-ce qu'ils vont continuer leurs études à Sciences Po en raison de ce déferlement d'antisémitisme qui a suivi le 7 octobre.
Sciences Po a annoncé saisir la section disciplinaire en vue de sanctionner ces agissements que l'école qualifie d'intolérables.
La façade du mémorial de la Shoah situé à Drancy en Seine-Saint-Denis a été dégradée dans la nuit dernière et lui, autorité du département, dénonce un acte antisémite. La réforme de l'audiovisuel public pourrait être accélérée. La ministre de la Culture, Rachida Dati, veut aller vite et boucler ce dossier avant la fin de l'année. Elle l'a dit hier soir aux sénateurs de la Commission de la Culture et de la Communication. Pour atteindre son objectif d'un audiovisuel public plus puissant, plus efficace, elle se dit en faveur de la création d'une holding. Bonsoir Azéis Perronin.
Bonsoir.
Cette perspective suscite de l'inquiétude à France Télévisions.
Oui, si le calendrier annoncé par Rachida Dati est maintenu, le 1er janvier 2025, les différentes entités de l'audiovisuel public, France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA, seraient rassemblées sous une même gouvernance. C'est trop précipité pour Jean-Manuel Bertrand, grand reporter à France 3, délégué syndical du Syndicat National des Journalistes.
Moi, je trouve que la ministre, elle va plus vite que la musique. On ne crée pas une holding avec un coup de baguette magique. On réfléchit posément, on arrête de crier à la gouvernance unique, à la holding audiovisuelle, et on travaille vraiment le sujet et on l'expose aux salariés dans les instances représentatives du personnel, ce qui n'est pas le cas jusqu'alors. C'est-à-dire que nous sommes ballottés avec des déclarations toujours plus alarmantes les unes les autres.
Une situation d'autant plus source d'inquiétude que France Télévisions a déjà vécu une holding. C'était dans les années 2000, se remémore Pierre Mouchel, secrétaire général de la CGT, le syndicat majoritaire du groupe. À l'époque, cette société mère avait nécessité la création de postes de cadres de haut niveau, assez onéreux.
Cette holding, c'était plus de 200 emplois. Donc une holding, c'est d'abord et avant tout un coût. À très court terme, c'est un coût pour la nouvelle entreprise. Et évidemment, ce coût, il est supporté par les filiales, donc les entreprises actuelles.
Sachant que la nouvelle holding sera chargée notamment de définir les orientations stratégiques du nouveau groupe de l'audiovisuel public, Pierre Mouchel craint que cela nécessite des ressources importantes, un coût qui, selon lui, aura mécaniquement des répercussions sur l'organisation des rédactions et sur les conditions de travail des salariés.
Azaïs Perronin, la lutte contre l'A69 se poursuit. Les travaux de cette autoroute qui doit relier Toulouse à Castres en 2025 ont commencé il y a un an, suscitant bien des contestations. Aujourd'hui, les collectifs scientifiques en rébellion et Extinction Rébellion, ainsi qu'un groupe de soignants, ont visé l'un des principaux promoteurs du projet, le fleuron pharmaceutique Pierre Fabre, qui compte une dizaine de sites dans la région. Ils se sont rassemblés devant l'un des laboratoires du groupe à Boulogne-Billancourt. Le reportage de Mathieu Laurent.
8h30 précise, banderole en place.
A69, Pierre Fabre, complice du scandale.
Première lecture.
Le monde scientifique dénonce sans ambiguïté l'absurdité d'un projet anachronique, irrationnel et inutile.
Pascal Houllier, médecin, égrène l'éthique du groupe Pierre Fabre, rigueur, intégrité, avec en guise d'exergue cette phrase.
Parce que notre entreprise est née grâce aux plantes et que la nature reste jour après jour notre principale source d'inspiration, la protéger est un devoir.
La 69, s'empresse-t-il d'ajouter, passe par l'artificialisation de 350 hectares, dont 2/3 de terres agricoles, de considérables émissions de CO2 et de particules fines. Irénée Frérot, physicien, livre alors un extrait du contenu d'une lettre qui sera remise à la direction du groupe.
Considérant que le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité sont deux menaces majeures pour la santé humaine et que ce fait est scientifiquement établi, que l'A69 contribuerait par les travaux de construction eux-mêmes, les impacts de l'infrastructure sur l'environnement et par le trafic routier induit à dégrader la santé humaine, le climat et la biodiversité. Nous exhortons le groupe Pierre Fabre à déclarer publiquement qu'il soutient un moratoire sur les travaux de l'A69. Pierre Fabre, Aven, moratoire ou boycott.
Enrayer la mécanique d'une telle puissance économique, n'est-ce pas se bercer d'illusions ? Lisa, Extinction Rébellion.
Ce mode d'action, pour moi, il fait partie de toute une panoplie de modes d'action. Parce que l'urgence est telle qu'on n'a pas à réfléchir si il vaut mieux faire une marche, un discours, un blocage. En fait, il faut y aller de tous les côtés et on attend une réponse, effectivement.
À ses côtés, Ariane Lambert-Mogilianski, économiste.
Disons, l'aspect faible des grands groupes, c'est leur réputation. Et donc, on veut attaquer leur réputation de dire, en fait, vous dites que vous êtes bon pour la nature, vous êtes green, et c'est pas vrai. Ça a un impact.
Merci à tous et à toutes. Fin de l'action.
La direction de Pierre Fabre revendique le soutien qu'elle apporte à l'autoroute A69 Toulouse-Castres, en soulignant notamment que c'est un projet créateur d'emplois. Députés et sénateurs se sont accordés hier sur une série de mesures pour le bien vieillir. Et aujourd'hui, sur France Bleu, la ministre déléguée aux personnes âgées, Fadila Khattabi, précise que le droit des résidents d'EHPAD à être accompagnés de leur animal de compagnie sera opposable, c'est-à-dire qu'aucun directeur d'établissement ne pourra a priori refuser un animal. Alors on s'interroge bien sûr sur les modalités de mise en œuvre d'une telle mesure. Joachim Tavares, ancien directeur d'EHPAD et fondateur de Papy Happy, un comparateur de logements seniors, rappelle que concilier la liberté des personnes âgées et la gestion d'un établissement censé les protéger est loin d'être évident au quotidien.
Un établissement effectivement médico-social aujourd'hui, il y a tellement de normes sur l'hygiène, sur la sécurité, qui fait qu'effectivement vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Regardez par exemple lorsque vous avez le malheur dans un établissement d'avoir un début de gastro ou un début de grippe, c'est pas drôle, je reconnais. Que fait-on ? On est obligé effectivement de confiner les résidents parce qu'il y a les protocoles qui nous sont obligés et qu'on doit appliquer. L'alcool, effectivement, je suis entièrement d'accord de se dire, on est chez soi, on est en fin de vie, donc pourquoi pas en profiter ? Donc le fait de boire un verre de vin à table, de prendre un apéritif, d'être capable de vouloir le soir à 22h s'il faut sortir, de le faire. Il y a ce vrai sujet. Moi, quand j'étais directeur, par exemple, j'avais un petit monsieur qui voulait toujours sortir. Je l'ai laissé toujours sortir parce que j'estimais qu'il avait toute sa tête. Un jour, il s'est fait renverser par sa voiture, les enfants se sont retournés contre nous. Des fois, je trouve qu'il y a un parallèle avec l'école, vous voyez, des fois où Les gens ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, mais le vrai problème, et moi ce qui m'affiche le plus, c'est qu'on ne demande pas en fait à la personne ce qu'elle veut vraiment.
Joachim Tavares au micro de Wafia Kanish. L'agression hier soir de l'opposant russe Leonid Volkov, bras droit d'Alexei Navalny, fait beaucoup réagir en Lituanie où il avait élu domicile. Le pays accueille de nombreux opposants russes et s'est fait un devoir de soutenir l'opposition démocratique au Kremlin. Aujourd'hui, le président lituanien affirme que personne en Lituanie n'a peur de Vladimir Poutine, mais les interrogations sont nombreuses, Marielle Vituro.
Mikhail Maglov est arrivé en Lituanie il y a plus de 10 ans. Avant, il travaillait dans l'équipe de Boris Nemtsov. Aujourd'hui, il est journaliste d'investigation.
Les autorités comptaient sur la peur pour faire plier les opposants à Vladimir Poutine. Et elles n'ont rien pu faire. La peur n'a pas eu raison de l'horreur du meurtre. Nous avons compris qu'après le meurtre d'Alexei, une attaque contre quelqu'un se produirait.
Pour le renseignement lituanien, cela ne fait aucun doute. Le Kremlin est probablement derrière cette attaque. Son but, déstabiliser l'opposition avant les prochaines élections présidentielles en Russie. L'enquête se poursuit et ce soir, aucun suspect n'a encore été interpellé. Mikhail Maglov.
En fait, nous ne connaissons pas encore les détails de l'enquête officielle. Mais je ne serais pas surpris si nous découvrions que ceux qui ont attaqué Leonid étaient venus spécialement dans ce but.
Pour le député européen Andrius Kubilius, interrogé par la radio publique, il n'est pas question pour la Lituanie de se détourner de ses opposants.
Le fait que l'opposition choisisse Vilnius comme lieu où habiter et travailler doit être important pour nous. Mais il est évident que Poutine et Loukachenko luttent contre cette opposition.
Néanmoins, le défi est de taille, car en agissant ainsi, la Russie cherche aussi à déstabiliser la Lituanie. Le renseignement lituanien note cette tendance croissante depuis un an.
Marielle Vituro à Vilnius pour France Culture. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens annonce la mort d'au moins un de ses employés dans une frappe israélienne sur l'un de ses entrepôts à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'enclave palestinienne toujours dans l'attente du premier bateau humanitaire. Le navire parti hier de Chypre est encore loin des côtes. Mais de toute façon, pour l'organisation française Solidarité Internationale qui revient d'une mission à Gaza, ce type d'opération est inadapté à la situation, Étienne Monod.
Solidarité internationale est une grosse structure. Elle intervient principalement sur l'eau et l'assainissement. Mais Gaza est une découverte. Ça n'était pas un terrain habituel d'intervention. Philippe Bonnet, le directeur des urgences, a pu mesurer l'ampleur de la débrouille. Les Gazaouis doivent fouiller dans les décombres des immeubles pour trouver du matériel de construction à cause des restrictions qui sont imposées à l'entrée par les Israéliens.
On sera contraint à travailler de cette manière, un espèce de système D, jusqu'à ce que les camions puissent rentrer en masse, avec tout le matériel qui attend parfois depuis longtemps au poste frontière.
Au fond, ces camions apparaissent comme la solution. Ils sont nombreux à venir d'Égypte ou de Jordanie. Mais le contrôle de sécurité imposé par Israël fait office de goulot d'étranglement. Il rentre parfois 4 fois moins de camions aujourd'hui qu'avant la guerre. Et les nouvelles routes de l'humanitaire par la mer ou le ciel ne sont pas dimensionnées pour faire face, dit Philippe Bonnet.
Les bateaux et les avions, nous on le voit plus comme un outil politique des États pour montrer leur positionnement par rapport à cette crise, mais ce n'est pas ces éléments qui vont apporter aux Gazaouis l'aide dont ils ont besoin. Ce qui va permettre d'aider les Palestiniens, ça va vraiment être l'entrée de ces milliers de camions avec tous les biens essentiels dont les gens ont besoin.
Hier, une nouvelle route a été testée par les autorités israéliennes pour faire entrer les camions de l'ONU directement au nord. Au moins 10 enfants sont morts dans ce secteur de l'enclave, victimes du manque de nourriture et d'eau potable.
Étienne Monin, c'est un texte qui pourrait conduire à l'interdiction de l'application TikTok aux États-Unis. La Chambre des représentants vient de voter un projet de loi pour forcer l'application utilisée par près de 170 millions d'Américains à rompre avec sa maison mère chinoise. Le réseau social est en effet régulièrement accusé d'être à la solde de Pékin. Mais ce texte est loin d'être définitivement adopté. Loïc Loury, il ne s'agit que d'une première étape.
352 voix pour et 65 contre, la Chambre des représentants, habituellement à couteau tiré, s'est offert un rare moment d'unité ce matin contre TikTok. Dans le détail, le texte en question donne 6 mois à la maison mère chinoise de l'application ByteDance pour rompre ses liens avec le réseau social, faute de quoi la plateforme serait tout simplement interdite sur le sol américain. Washington, depuis déjà plusieurs années, accuse TikTok de collecter les données personnelles de ses utilisateurs utilisateurs, 170 millions d'Américains, en particulier chez les moins de 30 ans, et de les manipuler à travers les contenus diffusés. L'application aujourd'hui est donc clairement en danger, même si sa disparition est loin d'être actée, car si Joe Biden assure être prêt à signer le texte, le vote du Sénat, contrairement à la Chambre, n'est pas acquis. Certains élus très influents s'y opposent et une partie des experts doutent aussi de la constitutionnalité de la loi. Donald Trump ou l'État du Montana ces dernières années ont d'ailleurs déjà tenté de bâillonner TikTok avant de se casser les dents sur le sacro-saint Premier Amendement qui protège la liberté d'expression.
Loïc Loury à New York. Le temps sera lumineux et très doux demain, sauf près de la Méditerranée où le ciel sera nuageux et vers la Bretagne où il pourra pleuvoir à l'après-midi. Les températures minimales seront comprises entre 3 et 11 degrés. Les maximales encore en hausse atteindront 15 à 20 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 23 dans le Pays Basque. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.